Bonsoir, et si on arrêtait de se plaindre, hein, le pays se tiendrait autrement. Emmanuel Macron a colombé les deux églises, tire à sa façon, hein, les leçons du général de Gaulle. Les informés de France Info se penchent ce soir sur la 5e République à la suite du discours prononcé par le chef de l'État à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution. La réforme institutionnelle aura bel et bien lieu. Nous verrons si les Français ne seraient pas plutôt tentés par une bonne petite révolution. Ils le disent en substance, hein, n'exagérons rien. Dans notre enquête Odoxa Dentsu Consulting. Qui va succéder à Gérard Collomb? On se pose tous les jours la question. Elle est posée donc, la Macronie connaît-elle aujourd'hui la chienlit? Nous reviendrons sur l'émotion chez les éleveurs du Béarn, opposée à la réintroduction des ours. Mais oui, les troupeaux n'ont qu'à bien se tenir. Enfin, le coup de gueule de ce soir, qu'est-ce que Charles Aznavour fout dans la cour des Invalides? S'étonne Michel Fugain, qui aurait préféré un hommage populaire au chanteur. Demain, on en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Véronique Reilsoult.
Bonsoir.
Directrice générale de Dentsu Consulting. Également invitée ce soir, Chloé Morin. Bonsoir, Chloé.
Bonsoir.
Politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos. À vos côtés, Maëlle Thierry. Bonsoir, Maëlle.
Bonsoir.
Chef du pôle France au magazine L'Obs. Et avec nous, Henri Vernet, rédacteur en chef. Bonsoir, Henri.
Bonsoir.
Adjoint au Parisien, aujourd'hui en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Le français est-il un râleur impénitent? Interrogé par une retraitée qui se plaignait de sa faible pension lors d'un bain de foule à Colombey-les-Deux-Églises, le chef de l'État lui a dit ceci.
Petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie,
oui,
m'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre.
Ah bon?
Oui. Oh. Eh bien, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général.
Oui.
Si vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça.
Vrai. Henri Vernet, c'est vraiment une leçon du gaullisme, ça, hein?
Ah bah, c'est vrai que le général de Gaulle avait tendance à engueuler les Français. Rappelez-vous, hein, il les appelait les veaux, il aimait bien les remettre, les rappeler à l'ordre, leur faire un peu la leçon. Mais sauf que lui, c'était le général justement. Il en avait les épaulettes, il avait la stature, et puis évidemment l'histoire. Bon, maintenant, on peut penser que Emmanuel Macron, voilà, c'est vrai qu'il sortait de la boisserie, il sortait de cette visite, il s'est peut-être un petit peu mis dans le rôle, un petit peu mis dans un costume qui, pour l'instant, reste grand pour lui. Mais c'est peut-être le fameux Ubri, hein, dont parlait Collomb il n'y a pas si longtemps. Il en sort, il prend les expressions du général de Gaulle. Bon, alors maintenant, c'est vrai qu'à chaque sortie d'Emmanuel Macron, il y a sa petite phrase. Je veux dire, on peut penser qu'un bain de foule ne serait pas réussi, en quelque sorte, s'il n'y avait pas un dérapage, une petite phrase, comme on voudra.
Ah, vous dites ça, vous. Oui. Il faut la petite phrase à chaque fois.
Exactement, ouais. Il ne peut pas s'en empêcher, mais parfois, au détriment des vrais projets, des vraies réformes. Hein, l'horticulteur, ça venait au moment où il sortait son plan santé, son plan pauvreté. Bon, maintenant, alors c'est vrai que c'est maladroit, dans la mesure où, bien évidemment, les Français ont le droit de se plaindre. Il manquerait plus que ça, que je veux dire que le peuple n'est pas le droit. Mais est-ce que la phrase, quand on écoute toute la séquence, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on ne surdimensionne pas un petit peu toutes ces sorties? Voilà.
Maëlle Thierry, never explain, never complain, c'est ce que disait la reine Victoria, la reine d'Angleterre. Les Français, ils sont un petit peu impatients sur les bords?
Oui, ils sont impatients, bien sûr, ils sont impatients. En même temps, les Français, ils attendent les résultats qu'on leur a aussi annoncés dans la campagne électorale. Emmanuel Macron a aussi promis une forme de révolution. Un an après que les Français attendent des premiers résultats de ce qui leur a été annoncé, notamment en termes de pouvoir d'achat ou d'emploi, ça s'entend tout à fait.
Oui, alors justement, à ce sujet, Chloé Morin, dans son discours, on écoutera un extrait tout à l'heure, Emmanuel Macron a fustigé ce qu'il appelle la tyrannie de l'urgence. Est-ce que les responsables politiques, à leur tour, peuvent se plaindre? Parce qu'ils se plaignent, là.
Oui, en l'occurrence, il se plaint. Alors, c'est vrai que il a su créer gérer l'impatience des Français pendant un an. Et ça, c'est vrai que au début, c'était assez étonnant parce que il n'a pas été tout de suite rattrapé par cette impatience qui avait rattrapé très vite Nicolas Sarkozy et François Hollande. Là, maintenant, on arrive quand même au moment où les gens attendent les premiers résultats. Mais sur la phrase, le fait de se plaindre, moi, ce que je trouve frappant, c'est que effectivement, à chaque fois qu'il sort maintenant, on retient une phrase et on retient la phrase qui vient conforter la mauvaise image qui s'est sédimentée au cours des derniers mois. Et finalement, je me dis que probablement qu'au début, il disait la même chose, mais on le remarquait pas. Et c'est, on a toujours tendance à venir chercher dans l'actualité, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, les éléments qui viennent conforter l'image qu'on a déjà. Et ça, c'est un problème pour sa communication, parce que plus le temps passe, plus il est difficile d'échapper à cette image qui pèse de plus en plus lourd.
Véronique Reilsoult, à ce sujet, les Français, là, vous qui consultez nos tuyaux en permanence, qu'est-ce qu'ils attendent des résultats? Comme le disait Maëlle, Thierry, à l'instant, il y a une forme d'agacement.
Ouais, ils attendent des résultats. Alors, il y a eu effectivement une première année plutôt bienveillante et avec un attentisme bienveillant et la compréhension qu'évidemment, du jour au lendemain, tout n'allait pas changer. Mais on nous a promis des indicateurs, des résultats, le fait qu'on pourrait suivre l'évolution de ces indicateurs, et les indicateurs, ils sont pas là, et les peu que l'on a sont pas forcément positifs. Donc, oui, il y a une forme d'impatience. Après, elle n'est pas totalement déraisonnée, parce que quand on regarde ce que les Français disent, ils comprennent bien que tout ne peut pas changer du jour au lendemain. Ils demandent juste quelques débuts d'éléments concrets. Et puis après, le Français peut-être à l'heure, je ne sais pas s'il se plaint, mais en tout cas il est sans doute à l'heure, et ce n'est pas parce qu'il exprime une certaine impatience qu'il ne peut pas comprendre quand on lui explique clairement où on va.
Ouais, Henri Vernet, encore un mot là-dessus, le président subit un peu les événements depuis quelques temps, on a l'impression, non peut-être, lui qui dictait au fond la marche du pays assez facilement.
C'est ça, voilà, parce qu'en réalité, cette première année, c'est lui qui donnait le tempo, et qui était un tempo très rapide, puisque c'était réforme sur réforme, des réformes dures, ça avait commencé par le code du travail, et que justement c'était apparu comme une tactique, sinon une stratégie, ce fait d'en avoir tellement et d'aller si vite avec une telle puissance de feu entre guillemets que tout le monde était désarçonné, que ce soit les syndicats, que ce soit l'opposition. Et aujourd'hui, c'est lui qui est victime de cette inversion du tempo, qui en effet, il est rattrapé là par tout un tas de scories qui sont l'affaire Benalla, les crises gouvernementales, parce que ce sont des vraies crises, des crises politiques, des crises gouvernementales en série. Donc c'est d'autant plus déstabilisant pour lui que en effet, c'est pas du tout le tempo, c'est pas du tout le rôle, c'est pas ce qu'il avait instauré dans ses débuts de présidence où tout remontabilisait, tout était contrôlé. Aujourd'hui, il ne contrôle plus, il est sous la mitraille.
Bon allez, on va ralentir un petit peu le rythme puisqu'on va parler de Constitution et de 5e République. 20h10 sur France Info, ce sera... France Info, c'est original. Ce sera après le rappel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
En 2018, le chômage va continuer de diminuer selon l'INSEE qui table sur 8,9% de taux de chômage. Mais les créations d'emplois marquent le pas. Quant à la croissance, elle est revue à la baisse 1,6% en 2018. Cette fois, c'est dit, Fessenheim fermera d'ici la fin du quinquennat et plus question de conditionner la fermeture à l'ouverture de l'EPR de Flamanville, sans cesse repoussée. Le gouvernement annonce dans le même temps débloquer 10 millions d'euros dès l'année prochaine pour accompagner la reconversion économique de la zone autour de la centrale. 6 mois de prison ferme pour avoir giflé une jeune femme en pleine rue à Paris. L'agression avait été filmée. L'homme a aussi obligation de suivre un stage de sensibilisation sur les violences sexistes. Ils promettent de la traquer, les anti-ours, à l'offensive, alors qu'une première ours slovène a été relâchée ce matin dans le Béarn par hélicoptère. La seconde sera introduite dans les prochains jours. Et puis le PSG, l'étoile rouge de Belgrade, visé par une procédure disciplinaire de l'UEFA après les incidents survenus hier en tribune pendant le match de Ligue des Champions, fumigène, chant illicite. En revanche, la procédure ne concerne pas les incidents qui ont éclaté en dehors du stade.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors nous sommes le 26 septembre 1958, ça ne date pas d'hier, c'est 2 jours avant le fameux référendum. Le général de Gaulle, qui est président du Conseil des ministres, c'est la France de René Coty, la 4e République. Le général de Gaulle donc appelle les Français à ratifier 2 jours plus tard le projet de constitution qui pose les fondements, les bases de la 5e République.
Si avec mon gouvernement je vous appelle à répondre oui, et à le faire en masse, de grand cœur, c'est simplement au nom de la France, en vous demandant de choisir l'efficacité de l'État et l'unité nationale.
On ne s'en lasse pas, le oui donc l'emporte par 82,6% en métropole et dans les colonies, je précise. Henri Vernet, cette 5e République, ces 60 ans-là, qu'est-ce qu'il reste de tout ça, du général de Gaulle, du gaullisme?
Il en reste des institutions extrêmement solides, même si depuis elle a été révisée, je crois, plus d'une vingtaine de fois. Mais fondamentalement, il reste un texte qui instaure la primauté totale de l'exécutif, du président, très singulièrement. C'est vrai que le président français est l'un, on dit toujours que c'est l'Américain le plus puissant du monde. Oui, certes, parce qu'il a la puissance de son pays qui est encore dominant. Mais le président français, institutionnellement, c'est lui qui a un nombre de pouvoirs concentrés entre ses mains, phénoménal. Pourquoi ? Parce que De Gaulle, donc, que l'on vient d'entendre à cette époque, tout le monde regardait, il n'y avait qu'une seule chaîne. En tout cas, il n'y avait pas de chaîne d'info. Il concentrait ça parce qu'il voulait, il avait vraiment voulu d'une part mettre fin à l'instabilité, régime des partis, etc. Et puis surtout ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 40 où le pouvoir était dépourvu. Donc il a instauré cette originalité française, hein, d'un régime qui n'est ni parlementaire ni présidentiel à l'américaine. Et ça reste. Mais c'est vrai que avec l'instauration du quinquennat, ce régime-là, ce texte-là, il a subi énormément de coups de boutoir.
Alors vous dites c'est un régime très solide, mais Véronique Reltsoult, l'enquête que nous avons dévoilée hier soir dans les informés de France Info, copilotée par Odoxa et Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, que dit-elle que, je résume, sur les institutions, les Français ne demandent pas une réforme institutionnelle, mais une sorte de révolution. Il serait une majorité désormais à se dire plus vraiment attachés à la Ve République.
Non, après, les Français sont souvent ambivalents. Une fois de plus, ils le sont un peu. C'est-à-dire que, en gros, 56% des Français disent, voilà, ils sont plus ou pas attachés à la Ve République. Pour autant, l'élection au suffrage universel du président, qui leur semble un handicap, est quand même un moment fort pour une grande majorité des Français, donc un moment important dans la démocratie. Mais en même temps, ils disent que finalement, c'est quand même un handicap, que ça semble rendre un peu fou les politiques, que c'est pas si efficace que ça. Et puis les grandes institutions dont parlait Henri Vernet, finalement, pour certaines, ils se demandent si elles sont si utiles que ça. Donc, ils sont attachés et en même temps, donc une révolution peut-être pas, mais quand même une évolution importante est attendue. Et surtout, ils ne comprennent pas forcément toujours le sens de chacune de ces institutions qui, avec le temps, ne leur semblent pas toujours si efficaces que ça. Ouais, à commencer par le Sénat, par exemple.
Oui, oui. Alors, vous avez vu, Malthierry, le palmarès de cette enquête. C'est assez curieux parce que, si mon souvenir est bon, quand François Mitterrand cesse son septennat, il ne se représente pas, évidemment, il est très malade à cette époque-là, il est très impopulaire. Et là, surprise, vous ne contredirez pas Véronique Reltsoult, il est largement en tête du sondage de palmarès de meilleur président après le général. Il était au concours de ces 40 dernières années. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
Alors, d'abord, oui, effectivement, c'est après le général de Gaulle, parce que quand on interroge les Français sur tous les présidents de la 5e, il est absolument hors concours et de très loin, c'est la personnalité la plus marquante pour les Français de la 5e République. Après, sur François Mitterrand, le temps a sans doute fait son œuvre et c'est aussi le président qui a aussi fait deux septennats, donc qui a aussi marqué une époque, un changement profond du pays.
Des grandes réformes sociétales peut-être, qui auront marqué leur temps, la 5e République.
L'alternance pour la première fois dans la 5e République. Ce qui est frappant aussi dans le regard que les Français ont sur leur président passé, c'est aussi le temps nécessaire d'une certaine façon pour rejuger leur action.
On y revient.
À ce titre-là, dans cette enquête, on voit que Hollande, président
4%.
Sortant, 4%. Dans la même enquête pour l'Obs, il était à 3%. Donc,
Et il faudra une décantation, selon vous.
Il faut espérer, cas pour lui, que le temps permettra aux Français de réviser peut-être un peu son...
Nous verrons bien, on se revoit dans quelques années pour en parler. Clé Morin, la 5e République, les institutions de la France, on va y revenir avec vous, Véronique, également. Vous avez la sensation que c'est un sujet de permanence dans l'esprit des Français, des habitants de ce pays ?
D'abord, quand on pose la question des institutions de la Ve République et de l'attachement à la Ve République, je pense que dans la tête des gens, il n'y a pas grand-chose au-delà de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est vrai qu'il y a, une connaissance des institutions qui est assez limitée. Ensuite, effectivement, il y a une forme de désintérêt, on va dire, pour ces institutions. Mais je pense que est beaucoup plus profond, c'est le problème du rapport au système politique, le problème de la crise du résultat du politique, et le problème de la démocratie et de la démocratie dans son ensemble. Parce que quand nous, chez Ipsos, on pose des questions sur le fonctionnement de la démocratie, l'impression d'être bien représenté ou pas, la nécessité d'avoir un leader fort, y compris qu'il soit capable de tordre les règles pour avancer. Là, on a les symptômes d'un dysfonctionnement démocratique et du désir d'avoir un leader extrêmement fort. Donc, vous soulignez les paradoxes tout à l'heure dans le rapport au président de la République, mais là, c'est vraiment très paradoxal. C'est-à-dire que tout fonctionne comme si on déplorait collectivement que l'homme providentiel n'existe pas. Et donc, au bout d'un certain temps, on arrive un peu à cette étape-là du quinquennat. On se dit finalement, on a tout attendu d'un homme et on en a trop attendu. Donc notre déception est à la hauteur.
C'est l'éternel paradoxe de cette constitution et de ce système finalement.
C'est l'éternel paradoxe, mais en même temps, l'élection au suffrage universel direct tous les 5 ans, c'est la seule élection en France et voire en Europe qui résiste au désenchantement démocratique.
Moi, et donc on retourne voter massivement. Vous dites ça à l'instant, mais regardez, Véronique Reilsoult, l'élection du président, je lis, au suffrage universel est désormais perçue comme un handicap pour notre pays, révèle votre enquête, cette enquête. Les Français en ont marre de ça, c'est pourtant une élection populaire.
C'est pas tant qu'ils aient marre
comme le rappelle Chloé Morin à l'instant. Ouais,
c'est pas, ils le disent que c'est un événement marquant en grande
estimant
majorité.
Que cela rend notre système politique moins efficace.
Parce qu'en fait, ils finissent par dire, mais quand on regarde pourquoi, quand il est dans les questions derrière, c'est beaucoup sur ça rend fou les politiques, c'est pas efficace, finalement, c'est un système où on comprend pas forcément. Et d'ailleurs, je vous rejoins, alors c'était pas dans cette enquête-là spécifiquement, mais globalement, on voit bien que les attributs que l'on attend d'un président, on veut bien qu'il soit autoritaire, c'est plutôt bien même d'avoir un chef autoritaire. Ce qu'on comprend pas, c'est finalement le manque de transparence, l'explication des gestes et l'impression que cette autorité, elle n'est pas au service du peuple, au service de ceux qui vous ont élus. Donc le manque d'efficacité, c'est souvent ça, c'est de pas comprendre ce qui est en train de se passer.
Henri Vernet, Maël Thierry, allez-y.
Je voulais juste rajouter peut-être une forme de déséquilibre perçu dans la cinquième, c'est-à-dire que quand on regarde aussi ces enquêtes, et il plébiscite aussi des contre-pouvoirs, c'est-à-dire par exemple l'Assemblée, une Assemblée plus représentative, avec des pouvoirs un peu renforcés. Enfin, c'est aussi
avec
ça
une
qui
dose de proportionnelle.
Allez, on va parler de réforme des institutions dans un instant. Ce sera juste après, à 20h20 sur France Info. Après vous, le rappel de l'info, Mélodie Pépin.
La réforme constitutionnelle de retour, suspendue à cause de l'affaire Benalla, elle revient à l'Assemblée début janvier. Emmanuel Macron l'a annoncé tout à l'heure lors d'un discours devant le Conseil constitutionnel, marquant le 60e anniversaire de la 5e République. Pas de réponse, le mystère reste entier après ces naissances de bébés, sans main ou sans bras, dans 3 zones géographiques précises. Après enquête, les autorités sanitaires n'ont pas pu identifier les causes qui peuvent être multiples. La génétique, l'environnement ou encore les médicaments. Un nouveau suicide de policier aujourd'hui à Lille. L'agent de 22 ans a utilisé son arme de service dans le commissariat. Pas de lien établi encore avec un éventuel mal-être au travail. Le parquet et la police des polices enquêtent. Comme un pied de nez à la politique anti-migrant menée en Italie, un navire battant pavillon italien a pris la mer pour témoigner du drame des migrants. Une initiative menée par un collectif d'associations et d'intellectuels. Et puis l'hommage national à Charles Aznavour demain se fera en présence du Premier ministre arménien Nikol Pachinian aux côtés d'Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre dans la cour des Invalides. 200 personnalités conviées et bien sûr le public.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Le chef de l'État, lors de son discours à Colombey, a donc annoncé que la réforme constitutionnelle reviendrait devant l'Assemblée début janvier.
Ce que nos concitoyens attendent, ou plutôt exigent de leurs institutions, ce sont des résultats. C'est-à-dire une capacité à produire rapidement des décisions dotées d'un impact réel sur leur quotidien. Or, nos institutions ont peut-être à cet égard vieilli, et certaines mauvaises habitudes ont été prises, créant des rigidités peu intelligibles. La réforme constitutionnelle à laquelle je m'étais engagé est à mes yeux une tentative de réponse à cette crise. Elle reviendra devant l'Assemblée nationale début janvier, et je sais que le gouvernement, par le dialogue avec l'Assemblée nationale et le Sénat, trouvera la manière de faire intelligemment cheminer cette réforme.
Henri Vernet, début janvier de l'année prochaine, c'est pas un peu tard, non? Nous serons déjà dans les européennes, non?
Oui, les gens, en effet, auront la tête un petit peu ailleurs, mais c'est aussi que le calendrier parlementaire, de toute façon, est très chargé. Il faut dire que cette réforme, alors là, elle a vraiment été la victime de l'affaire Benalla. C'est la victime, le dommage collatéral, parce que normalement, elle aurait dû aboutir là en juin, enfin en juillet, en tous les cas. Maintenant, il faut dire aussi que là, il a l'air de passer déjà par pertes et profits, le vote, l'attitude des sénateurs et des députés. C'est pas si sûr que ça, parce qu'ils ont beaucoup de... Il y a quand même des lignes rouges par rapport, notamment du côté des sénateurs par rapport à cette réforme. Bon, je crois qu'il y a plus ou moins, ils sont plus ou moins mis d'accord sur une certaine restriction du droit d'amendement. Bon, mais il faut bien en comprendre la philosophie de cette réforme. Là, tel qu'il vient de la présenter à l'instant, Emmanuel Macron, on a quand même l'impression que finalement, c'est pour renforcer encore un petit peu ce côté primat de l'exécutif qu'a voulu le général de Gaulle pour rabaisser, mais pour que le Parlement, en quelque sorte, soit assez suiviste. Quand il dit qu'il faut rendre plus efficace, ça veut dire que la discussion parlementaire prendra moins de temps, qu'il y aura moins de temps pour s'exprimer. Or non, c'est pas ça qu'il faut réformer en France. Je veux dire qu'on a, si on a un déficit, tout à l'heure je disais que ce texte a mérité. Il y a un déficit démocratique en France. Je veux dire, il est évident que le Parlement, par rapport à ses homologues européens occidentaux, n'a pas un pouvoir de contrôle, n'a pas un pouvoir d'évaluation à la fois des propres lois qui sont votées, qui ont été votées.
Vous pensez que ce serait là la meilleure réforme.
Ah oui, la vraie réforme, ce serait ça. Doter les parlementaires de davantage de moyens pour contrôler l'action gouvernementale, pour peser dessus, pour ne pas passer leur temps, en effet, à faire des lois, empiler des lois dont on sait qu'elles font parfois 3 km et mettent du temps à être exécutoire.
Maëlle Thierry, est-ce qu'on peut imaginer l'opposition profitant au fond de cette discussion en janvier et s'emparant de la réforme des institutions pour s'opposer justement en pleines européennes ?
Certainement.
Il y a ce risque.
Il y a ce risque, absolument. On a vu déjà dans les premiers temps de cette discussion au mois de juillet que c'était compliqué. L'affaire Benalla est passée par là. Ça le sera encore plus sans doute parce que l'opposition est quand même revigorée et, depuis cette affaire Benalla. Il y a quand même une chose compliquée pour l'opposition, c'est que sur ce sujet, Emmanuel Macron, les Français avec lui. C'est-à-dire que quand il dit « je vais réformer l'Assemblée, je vais réduire le nombre de parlementaires drastiquement ou je vais introduire de la proportionnelle », les Français, quand on les interroge, ils sont pour. Et d'ailleurs, c'était une des promesses du candidat Macron dans sa campagne de rompre un peu avec certaines pratiques politiques passées.
Vous confirmez, Véronique?
84% des Français disent oui, réduisons d'un tiers des parlementaires, ok.
Mais c'est inquiétant,
ils suivent le sujet. Ce qui était intéressant, c'était juste sur au moment de l'affaire Benalla. Donc, on a cette réforme. Honnêtement, les internautes, ils n'étaient pas passionnés par ce débat qui leur paraissait un peu technique. Et puis arrive l'affaire Benalla, et là tout d'un coup ils se sont dit, ah bah oui, en fait c'est nécessaire un contre-pouvoir, et du coup, alors ça n'a pas fondamentalement changé l'image qu'ils ont du Sénat, mais ils ont commencé à dire, bah tiens, il y a quelque chose d'intéressant, et du coup on pouvait lire, on va plus s'intéresser au sujet. Du coup, quand on regarde les taux de consultation des différents sites pour comprendre comment fonctionnent réellement les institutions, ont augmenté ces derniers temps, donc on voit,
il y a un regain d'intérêt sur
le sujet.
Ça paraît un petit peu technique quand même,
les commissions d'enquête.
Oui, absolument.
Ça préfigure un petit peu ce contrôle qu'il devrait y avoir, mais y compris sur des sujets, j'allais dire, plus fondamentaux.
Chloé Morin, vous avez la sensation que l'opinion évolue sur ces questions-là aujourd'hui? Elle s'intéresse ou c'est un petit peu à la marge quand même?
Bah, disons qu'elle a retrouvé, comme vous disiez, l'utilité des contre-pouvoirs. Ce qui est intéressant, c'est que cette réforme-là, finalement, elle faisait partie, enfin, c'était un élément très important du récit macronien depuis la campagne qui a construit sa campagne en opposition au système et notamment au système politique, en expliquant que une des raisons pour lesquelles la France ne se réformait pas, c'était la classe politique. Et c'était donc les gens qui occupaient les institutions. Et donc depuis le départ, il prend appui sur l'opinion publique pour mettre la pression sur les responsables politiques pour changer. En disant, grâce à l'appui de l'opinion publique que je vais forcer finalement cette classe politique qui est toujours la même et qui fait toujours les mêmes choses depuis 30 ans, à se réformer elle-même. D'où les mesures emblématiques que sont, par exemple, la réduction du nombre de députés et de parlementaires, en général. C'est, une mesure dont, intuitivement, l'opinion soutient massivement, qu'intuitivement, on associe à plus d'efficacité, alors que, finalement, quand on rentre dans les faits, ça n'est pas dit du tout que moins de députés se traduisent nécessairement par des lois meilleures ou par même une procédure moins longue.
Véronique Reilsoult, rapidement, si on faisait un quiz là sur vos réseaux sociaux, les gens, en fait, ne sont pas très au fait de tout ça, finalement.
Non, ils suivent pas. Après, c'est toujours pareil, c'est des sujets plutôt symboliques. Les trois mandats, par exemple, c'est facile à comprendre et ça fonctionne fonctionne bien et c'est une mesure sans être populiste, en tout cas facile à percevoir. Voilà. Ouais. Après, honnêtement, c'est assez étonnant de voir l'augmentation de la consultation sur les sites un peu plus techniques. Donc, ça va pas être si simple que ça. Et puis, effectivement, ça va arriver au moment des européennes, donc ça va pas être simple.
Allez, dans la deuxième partie, nous évoquerons le départ de Gérard Collomb, Madame Ours qui s'est installée dans les Pyrénées. Ça vous fait sourire, je sais. Et nous évoquerons également l'hommage qui sera rendu demain à Charles Aznavour après la météo et le rappel de l'info. À tout à l'heure.
Je veux vous présenter notre atout commercial à l'export, un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up.
Assalamu alaikum, man gete de Marc. Commercial memrek la bague. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Je l'utilise pas mal par ici.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Cécile est assistante et cliente Hyperbureau. Et quand elle s'assoit sur la chaise cassée de son salon, elle craque.
Chérie, tu comptes la réparer un jour cette chaise?
Chez Hyperbureau, nous lui donnons ce petit conseil. Cécile, vous seriez bien mieux au boulot. Siège, mobilier, informatique, fourniture de bureau. Cécile améliore son confort et prend soin de son dos.
Hyperbureau. Hyper pro, hyper proche.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Beau et plus chaud demain, ce sera très ensoleillé quasiment partout, quelques bémols. Le matin, il faudra composer avec les nuages vers le Roussillon, apportés par le vent de sud-est. On n'en parlera plus l'après-midi. Quelques brouillards possibles ici ou là, mais seulement le matin. Ce sera un peu voilé sur le nez de la Bretagne et puis sur la Corse. Là, le ciel deviendra menaçant avec des averses, parfois de l'orage. Les températures seront en hausse, comptez 5 à 17 degrés du nord-est au sud le matin. L'après-midi, il fera 21 à 27 degrés au nord, 23 à Dinard, Amiens, Metz, 24 à Paris, 27 à Châteauroux, 24 à 30 degrés sur les régions du sud, 27 à Limoges, Valence, Toulon, 29 à Bordeaux et 30 pour Mont-de-Marsan ou Pau.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir, cher Julien Longlet.
Bonsoir, Jean-François. La grande salle de spectacle Mégacité d'Amiens, transformée aujourd'hui en salle d'audience pour les 832 ex-salariés de l'entreprise Goodyear. Ils contestent devant le Conseil des Prud'hommes leur licenciement économique abusif, selon eux, au vu des bénéfices réalisés par le groupe. Entre 4 et 500 personnes, essentiellement des anciens salariés, accompagnés parfois de leur famille, ont assisté à cette audience peu banale. Evelyne Becker est la représentante CGT des ex-Goodyear.
On se dit qu'on est tous dans le même bateau, on a tous subi ce même sort, là, cette fermeture d'entreprise avec qui n'est pas justifiée, puisqu'on s'aperçoit au fil de l'audience et de la plaidoirie de Maître Riloff, l'avocat des salariés, qui démontre par des chiffres faramineux les bénéfices de ce groupe mondial. Et on se dit qu'on est tous là, pour la plupart sans travail. C'est assez particulier comme ambiance.
Vous faites corps dans cette salle ?
Oui. Je crois que il y a eu ces retrouvailles au début sur le parking avant d'entrer en audience. Et puis tous, on est contents de se revoir, même si c'est une situation un peu difficile pour les uns et pour les autres. Mais oui, c'est une espèce de famille, quoi. Goodyear un jour, Goodyear toujours, quoi. C'était ça le slogan de la CGT Goodyear.
Voilà, Evelyne Becker, la représentante CGT des anciens salariés de Goodyear. Le jugement ne sera pas rendu avant le premier semestre 2019. La réforme constitutionnelle reviendra devant l'Assemblée début janvier. C'est le président de la République qui l'a annoncé aujourd'hui dans son discours, célébrant les 60 ans de la 5e République. Discours devant le Conseil constitutionnel qui est venu ponctuer une journée commencée à Colombey, les deux églises. Une ours slovène a été relâchée ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques par hélicoptère afin d'éviter les éleveurs anti-ours qui avaient installé des barrages routiers dans la vallée d'Aspe. Le ministère de la Transition écologique a précisé que l'opération de réintroduction se poursuivra dans les prochains jours avec pour unique priorité celle de garantir la sécurité des deux ours femelles. L'UEFA a ouvert aujourd'hui une procédure disciplinaire visant le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade après les incidents survenus hier à l'intérieur du Parc des Princes pendant le match de Ligue des Champions remporté 6-1 6-1 par les footballeurs parisiens. Cette procédure vise les fumigènes utilisés par les supporters parisiens et des chants illicites proférés par ceux de Belgrade, mais pas les incidents qui ont éclaté à l'extérieur entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de personnes à la fin de la rencontre. Deuxième soirée de Ligue Europa pour les clubs français aujourd'hui, défaite de Rennes à Astana, 2-0. Depuis 19h, Bordeaux reçoit les Danois de Copenhague et pour l'instant, c'est Copenhague qui mène sur le score de 1-0. Ce soir, Marseille est à Chypre pour affronter Limassol, 20h33. Le retour de Jean-François Quillier de ses informés.
20h, 21h, les informés, Jean-François Quillier.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Véronique Reil-Soult, la directrice générale de Dentsu Consulting, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projet internationaux chez Ipsos, avec Maël Thierry, chef du pôle France de l'Obs, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint aux Parisiens aujourd'hui en France. Halte au feu, le gouvernement, la majorité et Gérard Collomb lui-même tentent depuis hier de minimiser ce psychodrame qui s'est déroulé des jours et des semaines durant au sommet du pouvoir. L'ancien ministre de l'Intérieur enchaîne les interviews pour dédramatiser la situation. La dernière en date devant Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. Gérard Collomb depuis sa belle ville de Lyon.
Il me dit, Gérard, j'ai encore besoin de toi, ne pars pas tout de suite. Et moi, je pensais qu'au contraire, je l'affaiblissais en restant. Il a une force de conviction assez forte. Lui-même a connu ce genre de situation, puisque ce sont des décisions dures à prendre. Lorsqu'il s'en va du ministère de l'économie et des finances, par exemple, il doit s'y reprendre à deux fois. C'est pas facile, parce que vous avez de l'amitié pour quelqu'un, mais en même temps, vous pensez que vous devez prendre cette direction. Alors, ça serait une crise grave si tout lien était coupé et que tout d'un coup, je parte en disant que tout ce que j'avais aimé, je le brûlais. Ce n'est pas du tout le cas.
Maël Thierry, vous avez la sensation que Gérard Collomb essaie au fond d'adoucir un petit peu la crise en question ?
Oui, c'est même assez étonnant parce qu'il a l'air très soulagé, détendu. Alors que bon, il se déclare toujours soutien actif du président. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'aide pas sur cette séquence. On se retrouve quand même avec un moment très particulier où il y a une vacance au ministère de l'Intérieur. S'il y a bien un endroit, s'il y a bien un poste où il est difficile d'imaginer une vacance, c'est bien celui-là. Donc, je trouve le ton sur lequel tout ça est énoncé assez surprenant.
Un peu extravagant, Chloé Morin, vous avez l'impression que ces interviews qui se succèdent, au fond, vont agir comme une sorte de câlinothérapie sur l'opinion publique ?
Mais c'est étonnant, c'est un phénomène qu'on avait déjà vu avec Hulot, c'est-à-dire que, en fait, humainement, on a l'impression qu'il garde des rapports humains bons avec le président et voire avec le premier ministre. Donc il ne critique pas l'homme, mais en même temps, les conséquences politiques ou les critiques sur la politique, s'agissant de Hulot, peuvent être très dures. Et là, en l'occurrence, la dimension humaine, qu'il explique très bien, ne peut pas occulter le fait que, en termes de timing et même en termes de symbole, c'est une atteinte portée à l'autorité du président. Donc c'est quand même quelque chose de lourd.
Henri Vernet, avec les jours qui s'écoulent, on a l'impression, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé au fond entre le président et son ancien premier ministre de l'Intérieur?
Non, pas vraiment. Je pense que l'essentiel est encore découvert. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que cette câlinothérapie, c'est franchement déplacé. Je veux dire qu'il a, il a créé une crise gouvernementale qui est grave. Là, on parlait à l'instant quand même des institutions et donc de l'efficacité qu'attendent les Français. Mais là, le spectacle est totalement déplorable. Je veux dire, il peut raconter ce qu'il veut. Il s'agit juste, alors c'est vrai, le parallèle avec Hulot, pourquoi pas, mais Hulot, ce départ, il y avait en effet des raisons profondément humaines, mais à la limite, l'enjeu était presque un cri d'alarme pour sauver la planète. Là, tout ce que veut sauver...
Mais il s'en va, puis il disparaît, en plus.
Mais voilà, c'est sauvé sans mairie de Lyon, et en plus, c'est vraiment loin d'être fait. Donc non, c'est vraiment pas sérieux. Les Français, ils attendent tout sauf ça, je veux dire, des résultats, que ce soit en effet sur le plan intérieur, économique et social, bien évidemment en priorité. Mais donc là, il plonge le gouvernement quand même dans une crise profonde. On parlait tout à l'heure du tempo, des horloges, etc. Et bien là, c'est à nouveau, on a Macron et Édouard Philippe qui fait le pompier de service, qui est là, qui se retrouve donc à la merci, il ne maîtrise plus rien du tout, il se retrouve dans une espèce désormais de remaniement permanent, parce que il va falloir colmater ce départ, il va falloir mettre fin à cette vacance. Donc non, plus les jours passent, non, cette crise ne s'estompe pas, il faut redonner du sens, un cap, et surtout encore une fois, oui, des résultats, et donc avoir des ministres qui soient là au travail, un gouvernement qui soit à l'action, et beaucoup moins dans les états d'âme dans l'idée
parce
de...
Parce que c'est que ça, là, c'est en public,
c'est
municipal, assez ouvert. Là.
Oui, la moitié du gouvernement pense déjà où est-ce qu'il va atterrir au prochain municipal.
Véronique Rensoult, l'opinion publique, les internautes, j'aime pas cette expression, mais c'est comme ça, nous tous, en fait, nous, parce que nous sommes toute la journée sur nos réseaux, qu'est-ce qu'ils disent, au fond?
Globalement,
on en parle toujours de ça.
Ah oui, il y a eu 219 000 messages cette semaine sur le sujet, donc on peut commencer à dire que ça intéresse. Le sujet, il y a un peu du pourquoi dans l'ensemble des messages, je pose des questions. Il y a beaucoup d'énervement sur la notion de péripétie, où les uns et les autres disent non, c'est pas une péripétie. Un peu d'énervement sur les éléments de langage, en se disant ils sont quand même un peu décalés, que les ministres et les députés répondent qu'ils peuvent pas commenter ce qu'ils sont en travail. Pourquoi pas? Mais enfin, si ils pouvaient quand même reconnaître que le sujet est grave, et à la limite qu'ils expriment la confiance qu'ils ont dans le président et dans le premier ministre, et qu'ils leur font confiance pour trouver une solution à cette crise, et qu'eux, ils sont en train de travailler, ça passerait mieux. Et puis après, il y a une réalité aussi vous demandiez si la câlinothérapie, ça passe. Ben non, elle n'est pas audible, elle n'est pas reprise dans l'histoire. Personne ne reprend ces propos-là, ça, c'est pas le sujet.
Henri Vernet. Juste, vous n'avez pas répondu sur le pourquoi qui était votre question initiale. Alors c'est vrai, je pense qu'on le saura peut-être dans les semaines, ou en tout cas on le saura à un moment ou un autre. Mais elle est fondamentale cette question, parce que ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a en effet une cassure entre les deux, alors humaine, mais sans doute plus encore politique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le candidat Macron, qu'est-ce qui avait été bluffant chez lui? C'était quand même cette capacité à fédérer des gens qui venaient d'un petit peu partout. On citait Hulot, voilà, société civile, donc Colomb, la gauche, Bayrou, le centre, etc. Enfin, Colomb, le PS. Et ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui, avec qui il aurait dû construire un lien de fidélité fort et qui lui permettrait aujourd'hui d'ailleurs d'avoir un banc de touche, comme on dit, assez rempli, avec des forces vives, avec des gens qui pourraient changer comme ça le gouvernement, eh bien, au contraire, ces fidèles s'en vont. Ils se défidélisent à un processus quand même extrêmement accéléré. Et donc, qu'est-ce qui a provoqué ça? Quel est ce pourquoi? Quelle a été la cassure politique ou humaine entre les deux? Il a un petit peu dit, d'ailleurs, Colomb, hein, avec l'ubris, l'arrogance, etc. Est-ce qu'il y a une déception dans peut-être dans les buts, dans la façon de gouverner d'Emmanuel Macron? Tout ça, c'est quand même ça relève, une crise, comment dire, gouvernementale, une crise du fait.
Dans le pourquoi, en fait, c'est la question qu'ils sont surtout posées, qu'on va dire, c'était le pourquoi cette urgence? En fait, c'était pas tant, le pourquoi comme ça avait été préannoncé, ça passe à peu près, c'est pourquoi c'est aussi urgent. Ouais. Et du coup, il y a plein de suppositions les plus étonnantes qui circulent, parce que quand vous donnez pas de réponse, les gens les trouvent tout seuls, elles sont pas forcément justes.
Pourquoi
là, 24 heures, tout de suite, cette urgence-là, elle a beaucoup interrogé.
Encore un mot, Chloé Morin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je trouve que la dimension humaine est d'autant plus intéressante qu'en fait, on sait que depuis le départ, effectivement, dans l'opinion et comme le fondement du macronisme, en fait, c'est Emmanuel Macron. Ça n'est pas une histoire commune, une histoire de militants, etc., ou une idéologie forcément commune. Il y a quelques idées fortes en commun comme l'Europe, mais c'est lui, en fait, le ciment du mouvement. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que la dimension humaine est d'autant plus importante.
Allez, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Ils accusent la Russie d'être responsable de cyberattaques majeures ces dernières années. La Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, les Pays-Bas, dans un mouvement coordonné d'une ampleur inédite. Les Pays-Bas qui ont annoncé aujourd'hui avoir expulsé 4 espions russes qui ont tenté de pirater l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le pouvoir d'achat des Français rebondit en fin d'année selon l'INSEE, qui revoit à la hausse ses prévisions. Un rebond qui s'explique par la suppression des cotisations chômage pour les actifs et la baisse de la taxe d'habitation malgré une croissance qui mollit. Se faire prescrire des lunettes par un orthoptiste plutôt qu'un ophtalmo, voilà ce que préconise la Cour des comptes, qui veut renforcer les missions des paramédicaux pour réduire les délais d'attente chez les ophtalmos, qui provoque la colère des médecins. Il avait giflé une jeune femme en pleine rue qui lui avait refusé des avances. 6 mois de prison ferme et 6 avec sursis pour cet homme jugé aujourd'hui à Paris. Et puis c'est une tendance qui se confirme. Les Français privilégient désormais la crémation à l'inhumation. Selon un sondage pour les services funéraires de la ville de Paris, 63% des personnes interrogées font le choix de la crémation et un tiers déclare ne souhaiter aucun hommage.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Y a-t-il des interrogations autour de la gouvernance? C'est ce qu'évoquait Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, invité des 4 vérités ce matin sur France 2.
Disons que quand il y a beaucoup de péripéties, il faut commencer à faire attention. C'est l'accumulation là, de certains désordres qui devient préoccupant. C'est assez étonnant parce qu'au bout de 18 mois, la contestation n'est pas aujourd'hui sur la politique de manière majeure, mais sur la gouvernance. D'une certaine manière, c'est moins grave. Il y a des solutions. Et au fond, je pense que c'est quelque chose que le président peut corriger, mais il est temps qu'il s'y mette.
Maël Thierry, vous êtes d'accord avec ce regard de l'ancien Premier ministre ? Il y a un souci de forme plus que de fond ?
Peut-être un peu des deux. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Jean-Pierre Raffarin. Ce qui me frappe, c'est que quand on discute avec des députés de la majorité aujourd'hui, ils peuvent expliquer très tranquillement que finalement c'est une succession de péripéties, pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron, d'épisodes, mais qui ne seraient pas liés les uns avec les autres. Il est quand même permis de penser que, étant donné ce qui s'est passé ces dernières semaines, il y a au moins quelque chose de structurel, de qui ne fonctionne pas sans doute dans la façon de gouverner d'Emmanuel Macron. Sa façon de fonctionner avec ses ministres aussi.
Alors Véronique Reilsoult, je voulais vous poser une question quand même ce soir, parce que au fond ça a été évoqué par Gérard Collomb, qui avait dit joker à l'époque quand ce sujet est monté en force, la limitation aux 80 km/h sur les routes. Juste une question là-dessus. Regardez le chiffre publié par les Échos ce matin, c'est banco, c'est super banco même, puisque ça va rapporter 1,23 milliard d'euros à l'État en 2019, et c'est consécutif à cette baisse. C'est quelque chose dont parlent les Français, ou ça y est, c'est intégré, on a oublié.
Tout le temps. Ils en parlent tout le temps. C'est un sujet constant. Alors après, il y a des pics sur le truc. Ah, aujourd'hui, on a un joli pic sur le sujet. Globalement, alors là, c'était sur les radars vidéo et la vidéo-verbalisation qui va encore plus remplir les caisses de l'État.
Oui, des scooters dans les couloirs de bus. Voilà. Oui, absolument.
Il y avait énormément de sujets là-dessus. C'est un volume qui monte de plus en plus. C'est beaucoup sur Facebook, ce qui est un signe, parce que c'est sur Facebook, c'est là où sont plutôt les gens. C'est beaucoup de témoignages et une espèce de colère qui monte et un sentiment que finalement, les automobilistes, donc les gens qui habitent à la campagne, qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer, qui ne sont pas dans les villes, sont pénalisés. Et donc, une politique de la ville contre la campagne, politique de Paris contre la province, enfin voilà. Et puis, une espèce de sentiment que quoi qu'il arrive, on leur en veut. Donc, 80 km/h, c'est pas pour sauver des vies, c'est pour gagner de l'argent. L'augmentation du diesel, c'est bien la preuve que. Enfin bref, c'est un sujet, mais constant, d'énervement qui monte tout le temps.
Ce sujet qui avait été pointé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Henri Vernet, récurrent dans les pages du Parisien aujourd'hui en français. C'est assez épidermique, en fait.
Oui, alors récurrent, mais pas forcément justement pour défendre l'automobiliste et dire absolument il faut rouler à 90 à l'heure, etc. Non, nous, ce qu'on constate, c'est qu'apparemment, d'après les premiers chiffres, ça a épargné des vies, moins de blessés, handicapés à vie, etc. Et donc ça, c'est important, je veux dire. Ça, c'est un combat à mener. Bien, peut-être que ça rapporte plus avec les radars. Ça serait bien, tant mieux pour l'État, je veux dire. Encore que, d'ailleurs, normalement, la recette est censée justement aller aux hôpitaux comme Garches, etc. Alors, c'est vrai que Collomb avait pris ça, mais sans doute aussi que ça fait partie de ce divorce humain politique entre les deux. C'est vrai que Collomb, c'était l'homme des élus locaux, et en effet, les élus locaux étaient vent debout contre cette mesure. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, qu'il faut y renoncer.
Allez, je vais vous soumettre un autre sujet qui concerne l'humeur, peut-être plus locale. Elle a été déposée par hélicoptère sur les hauteurs des Pyrénées-Atlantiques pour échapper aux éleveurs qui veulent lui faire la peau de l'ours. 150 éleveurs très remontés qui se sont opposés physiquement depuis ce matin sur les routes du Béarn à la réintroduction de deux ours slovènes. C'est la première qui est arrivée. Écoutez ce qu'en disait François de Rugy, le ministre de la Transformation écologique, invité sur France Info ce matin.
Moi, je comprends les mécontentements, même la colère. Ça existe, le sentiment de colère, mais ça ne justifie pas tout. Et donc, nous continuerons, même quand il y a des difficultés. Moi, je ne me dérobe pas devant les difficultés. L'opération de réintroduction de l'ours, elle coûte 350 000 euros. Ça, je l'ai dit depuis le départ. C'est totalement transparent. Il y a des opposants qui agitent d'autres chiffres qui n'ont rien à voir. En revanche, on dépense tous les ans plusieurs millions d'euros, même plusieurs dizaines de millions d'euros, en soutien aux éleveurs de montagne. Et c'est important, l'agropastoralisme, c'est-à-dire l'agriculture en montagne, où on emmène les troupeaux l'été et on les fait redescendre l'hiver. Eh bien ça, c'est un soutien public très important. S'il n'y avait pas ce soutien public, il n'y aurait plus d'élevage de montagne.
Flé Morin, c'est un argument, ça, de dire, puisqu'on soutient, on finance l'agropastoralisme, eh bien les éleveurs, ils doivent se taire.
Bah, la difficulté, enfin le sujet, c'est, je pense, est-ce que la nature, l'environnement, les animaux sauvages doivent forcément être utiles à l'homme.
La biodiversité.
Et l'opinion globalement se range à l'argument de l'utilité. Et c'est vrai que face à ceux qui essayent de vivre soit de l'élevage ou de je ne sais quoi, et si on met en face des ours ou des prédateurs,
il y en a une quarantaine déjà qui se baladent dans les Pyrénées. Hein, il faut quand même le rappeler. Il n'y a pas seulement un puis deux ours qui vont débarquer. Il y a du monde déjà. Hein, c'est peuplé
sûr,
déjà.
Mais oui. c'est compliqué parce que de toute façon la nature n'a pas de lobby. Donc voilà, vous avez en face de vous des éleveurs qui hurlent et qui ont des arguments et qui disent qu'ils peuvent plus gagner leur vie, etc. Mais c'est
Maëlle Thierry, est-ce que au fond le combat écologique fait pas bon ménage avec l'opinion publique?
Souvent, très souvent, effectivement sur l'ours, on parlait de la voiture, l'automobile, du coût de l'essence ou du diesel. Effectivement, souvent, le job de ministre de l'écologie est un job très compliqué. Il faut trancher entre des intérêts contraires sur le loup, sur l'ours. Ça souligne aussi, on le disait, l'ambivalence parfois, c'est-à-dire que les Français sont très sensibles, de plus en plus sans doute, à la question de la biodiversité. Et puis, dès qu'on passe dans l'application concrète, on se heurte toujours à des...
Je suis sorti, mais pas chez moi, quoi.
Voilà, absolument.
Henri Vernet, vous êtes d'accord avec ça? D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un cadeau laissé par Nicolas Hulot sur le départ, hein, cette histoire.
Oui, absolument. C'est une promesse que François de Rugy a honorée. C'était lui qui voulait, ben, justement, au nom du maintien de cette biodiversité. On l'aura beaucoup cité, Hulot, mais justement, moi, je me souviens, alors, c'était un autre animal, c'était le loup. Il avait expliqué, Hulot, à quel point il avait été, mais déchiré de devoir signer, vous savez, il avait signé un arrêté pour autoriser l'abattage de loups, je ne sais plus combien de dizaines, voire de centaines de loups, et ça l'avait totalement abattu, déprimé. Alors, beaucoup de choses l'atteignaient moralement, mais enfin ça particulièrement, parce qu'en effet, c'était au nom de cet équilibre dont vous parlez entre l'utilité, et le maintien de la diversité, alors l'utilité économique, presque à court terme, et puis la biodiversité dont on sait qu'elle est vitale pour l'avenir de cette planète. Et quand on parle de l'opinion, je pense qu'elle est très diverse là-dessus. Alors évidemment, c'est un peu injuste, hein, globalement, je pense que les citadins sont très favorable à l'épanouissement des ours et des loups, évidemment, moins les éleveurs,
bien sûr.
Ouais. Mais c'est vrai que faire de la politique, c'est faire des choix. Et justement, ce qui a abattu, sans mauvais jeu de mots, Nicolas Hulot, c'est il s'est rendu compte que c'était impossible de faire ses choix. Là, on verra si de Rugy résiste, hein, parce que pour l'instant, il a réintroduit en effet cet ours. Mais il faut. Alors moi, je me suis fait expliquer un petit peu l'économie de l'ours dans les Pyrénées, il y a deux heures, par la spécialiste, qui m'expliquait, c'est vrai, vous le disiez, il y en a 40. Mais sauf que ces 40, il y a un petit peu de consanguinité, etc. D'où la nécessité d'introduire de nouvelles ours femelles pour que ce cheptel, disons, soit plus vivace et plus durable.
Véronique Relsout a un mot à ajouter sur cette population ours dans les Pyrénées? Pas sûr. Hein.
Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il n'y a pas de lobby, mais par contre, quand même, il y a pas mal d'associations et que sur les réseaux, ils sont bien organisés. Ils ont des pages sur Facebook, ils ont des pétitions et que globalement, c'est un débat qui déchaîne quand même pas mal les passions. Il y a des côtés très extrêmes dans les discussions sur les réseaux. Un peu excessif des deux côtés et qui ne concerne quand même pas tout le monde et plutôt des locaux.
Oui, ça concerne aussi Pomprenel et Nicolas sur le petit nuage. 20h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Recueillement, bain de foule et petites phrases, voilà ce qu'on retient de la visite d'Emmanuel Macron à Colombey, les deux églises, pour marquer le 60e anniversaire de la 5e République. Répondant à une retraitée qui lui parlait de sa faible pension, le président a appelé les Français à moins se plaindre et la France se porterait autrement, dit-il. Les 14 enfants nés sans main ou sans bras dans l'Ain, en Loire-Atlantique et en Bretagne restent un mystère. Après enquête, les autorités sanitaires n'ont pas pu établir de cause identifié. 4 heures de plaidoirie. L'avocat des 832 ex-salariés Goodyear a tenté de démontrer que les licenciements sont abusifs. Le site d'Amiens a fermé il y a 4 ans. Un procès hors norme, délocalisé dans le parc des expositions de la ville. Près de 500 personnes y ont assisté. Plusieurs milliers de manifestants réunis en ce moment à Washington pour protester contre la nomination à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle. Aujourd'hui, un rapport du FBI exonère complètement le juge de ses accusations. Et puis la deuxième journée de Ligue Europa a mal débuté pour les Français. Rennes a perdu à Astana 2-0. À suivre à 21h, Marseille qui défiera les Chypriotes de Limassol.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors ce sera finalement un hommage national hein, en l'honneur de Charles Aznavour. Ce sera demain à 10h dans la cour des Invalides. Nicole Pachignan figurera parmi les 200 personnalités invitées. Le premier ministre arménien, il s'agit de lui, sera donc aux côtés d'Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre de l'artiste. Ce choix est vécu comme une confiscation par un autre chanteur. Il le dit assez fortement, c'est Michel Fugain sur France Info.
Je suis très embêté, moi, avec ça, parce que un hommage national, ça veut dire que des hommes politiques, un État, confisque Charles Aznavour, un artiste populaire, confisque Charles Aznavour à un peuple. Je pense que ça aurait été beaucoup plus représentatif de prendre, de dire, voilà, il y a un cortège qui va aller de tel endroit à tel endroit, et le peuple de France et de Paris se serait mis derrière ce corbillard ou tout ce que vous voulez. Alors que là, il va dans la cour des Invalides. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que Charles Aznavour fout dans la cour des Invalides? Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Je pense que on le confisque. L'État confisque un grand artiste populaire.
Véronique Rel-Soult, les mots de Michel Fugain sont assez forts, hein, confiscation.
C'est pas forcément ce que ressentent les uns et les autres. Après, je sais pas s'il y avait eu un cortège comme ça. C'est pas non plus tout à fait la même ferveur. En tout cas, c'est pas celle qu'on constate sur les réseaux que pour Johnny. Même s'il y a une vraie ferveur, un vrai sujet, plus de 600 000 messages en quelques jours, donc quand même un vrai sujet. Globalement, ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que dans les mots qui sont les plus cités, il y a le mot monsieur, il y a monsieur grand, le mot grand, mais oui. Le mot Arménie. Et donc, il y a aussi ce sujet-là qui est
cette
particulier,
dimension, oui,
cette
oui,
dimension
oui,
particulière, oui. assez oui. particulière de l'artiste. Après, évidemment, c'est un artiste international, on parle de lui partout dans le monde. Certaines de ses chansons sont plus retenues que d'autres, mais globalement, la polémique de Michel Fugain, elle n'a pas tellement été reprise en soi, parce qu'un hommage national, c'est un symbole et qu'on lui devait ça.
Maëlle Thierry, Les Invalides, c'est le bon endroit pour rendre hommage à Charles Aznavour. Vous pensez qu'il n'y a pas lieu de, je n'aime pas ce mot polémiquer, mais d'avoir un avis divergent là-dessus?
Les Invalides, c'est un lieu solennel, donc d'une certaine façon, c'est aussi un lieu très adapté, je trouve, à la, enfin voilà, une façon de rendre hommage à quelqu'un qui fait partie du patrimoine des Français. Peut-être que ça prive des Parisiens qui avaient prévu de se rendre demain à cette cérémonie, peut-être qu'ils sont privés, mais globalement, hommage national, hommage populaire, je pense que le plus important, c'est qu'il y ait lieu cet hommage. Donc pour la plupart des Français, ils le verront, ils l'entendront. Je suis pas sûr que ce soit très important de savoir dans quel lieu.
Alors il faut savoir que Hugo Frey, qui fut un compagnon de route hein, de Charles Aznavour dans les années 50, partage le point de vue de Michel Fugain. Henri Vernet, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette différenciation qu'on peut faire sur le côté un peu trop solennel, ou peut-être la rue, comme pour Johnny
ouais,
Hallyday?
Ouais, bon, je pense déjà qu'on aime bien faire des polémiques, et donc voilà, on serait tous d'accord, ce serait étonnant, ce serait plus des Gaulois réfractaires ou pas, et donc ça n'irait pas. Non, je pense que les deux arguments se valent. Après, honnêtement, Aznavour, c'était un monument, c'était quelqu'un d'extrêmement respecté, une star d'une certaine manière. Johnny Hallyday, c'était une idole populaire. Donc bien évidemment, avec lui, il y avait un cortège. On avait parlé du cortège de Hugo tel qu'on l'a vu dans les livres. Il y avait de ça, il y avait cette ferveur populaire. Aznavour, c'est pas exactement du même ordre. Donc l'important, c'est en effet quel hommage soit rendu. Les Invalides, c'est vrai que c'est peut-être pas le lieu le plus évident, c'est pas très joyeux. Et puis il y a quelque chose d'un petit peu quelque part. Les Invalides restent marqués par l'hommage. L'hommage aux victimes de terrorisme. Bon, est-ce qu'il aurait fallu un autre lieu? Peut-être, mais je rejoins Maëlle. L'important, c'est qu'il y ait cet hommage et que la France, la France, oui, c'est des dirigeants, des gouvernants, mais toujours le politique récupère. Johnny, c'est un hommage populaire, mais le discours de Macron avait été ô combien remarqué, applaudi ou sifflé d'ailleurs, mais en tout cas, il était là. Donc bon, tout à, je crois que c'est difficile à dire. L'important, encore une fois, c'est qu'il y a un hommage. Et puis les Parisiens, enfin les Français de manière générale, sont vraiment libres de
Chloé,
venir.
Chloé Morin, sur le caractère populaire au fond de la chanson française, on a rappelé les chiffres extravagants, les 180 millions de disques vendus, chanteur universel Charles Aznavour.
Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que on sait qu'on a un président de la République qui aime bien construire des héros et construire des représentations autour de figures fortes, et que finalement, c'en est une. Il y a à la fois la dimension, les racines plurielles en fait, et le fait d'assumer, le fait d'être hyper français, entre guillemets, et fier d'être français, de représenter la France, et en même temps, d'avoir aussi des racines arméniennes parfaitement assumées et dont il est fier aussi. Donc, je trouve que c'est probablement un héros qui va venir grossir la fresque d'Emmanuel Macron. Après June.
Dernier mot, rapide, Véronique Rensout, la chanson la plus citée ?
La Bohème. Ah et ben de loin, c'est celle qui est, quand on regarde dans tous les messages, celle qui revient le plus.
Allez, à la une du Parisien aujourd'hui en France, Henri Vernier demain.
Les supermarchés sans caissière.
Ah, très bien. Oui, et à la une de l'Obs, Maël Thierry.
C'est un débat sur l'avenir de la gauche entre Raphaël Glucksmann et Jean-Pierre Le Goff.
Allez, je vous dis pour ma part, merci d'avoir suivi cette édition Les Informés sur France Info. Merci Véronique Rensoul, Chloé Morin, Maël Thierry et Henri Vernet. Demain, ce sera mon camarade Olivier Delagarde qui présentera Les Informés. Merci, bonsoir.